magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue dans cette émission dont voici les titres. La MONUSCO, préoccupée par les violences enregistrées cette semaine à Kinshasa et dans certaines provinces autour du débat sur le projet de loi électorale. La mission de l'ONU déplore notamment les pertes en vies humaines ainsi que les pillages. Le général Abdallah Wafi l'a déclaré mercredi dernier à Kinshasa. Vous allez l'entendre dans l'actualité de la semaine. Vérification de l'identification des personnes déplacées au Nord Kivu, enregistrement biométrique, réponse aux besoins humanitaires des retournés par des projets communautaires. Ce sont là les actions menées dans le cadre du programme de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, en 2014 au Nord Kivu. Des actions reprises dans un rapport publié début janvier par cette organisation internationale. Les détails dans un instant avec notre invité. Les armes à feu, la pratique du sexe, la vente de bière aux prisonniers, la mésentente entre les dirigeants, autant d'irrégularités qui ont élu domicile à la prison centrale de Bukavu. Nous sommes dans le sud Kivu. Une ONG de défense des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme et dénonce ces tares qui pourraient occasionner de nouvelles évasions. Vous écouterez l'administrateur de cette ONG dans notre rubrique Nouvelles de province. Et ce sera tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour encore une fois et bienvenue dans ce magazine. La MONUSCO et la communauté internationale se sont beaucoup investis au cours de ces deux dernières décennies pour accompagner le peuple congolais dans sa quête pour la paix, la sécurité et la stabilité. Aujourd'hui, elle lance un vibrant appel à tous les acteurs politiques pour s'abstenir de tout acte de violence, de pillage et pour préserver la paix si chèrement acquise en République démocratique du Congo. C'est une déclaration du général Abdallah Wafi faite mercredi dernier à Kinshasa. Au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies, le représentant spécial adjoint chargé des opérations dans l'Est réagissait aux événements qui se sont produits à Kinshasa, à Goma et à Bukavu autour du débat sur le projet de loi électorale. Suivez l'entièreté de sa déclaration recueillie par Honoré Missenga Kalala.
Nous sommes préoccupés par les troubles répétés qui accompagnent le débat sur le projet de loi électorale au Parlement congolais et notamment par les violences de ces derniers jours. Il nous paraît essentiel que le cadre juridique et le calendrier global du processus électoral qui doit s'ouvrir cette année soit élaboré de façon consensuelle dans le respect de la Constitution et des libertés publiques. Kinshasa, comme vous le savez, a été le théâtre de violences entre forces de l'ordre et manifestants. Outre la manifestation autour du Sénat, de nombreuses scènes de pillage ont aussi eu lieu dans plusieurs quartiers du sud et de l'ouest de la capitale. Nous déplorons les pertes en vies humaines aussi bien du côté des manifestants que du côté des forces de l'ordre. La MONUSCO et la communauté internationale se sont lourdement investies au cours de ces deux dernières décennies pour accompagner le peuple congolais dans sa quête pour la paix, la sécurité et la stabilité. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel à tous les acteurs politiques pour s'abstenir de tout acte de violence, de pillage et pour préserver la paix si chèrement acquise en République démocratique du Congo. À l'opposition politique, nous demandons de poursuivre leur combat politique par des moyens pacifiques et de se démarquer de tout acte de violence et d'inscrire résolument leur démarche dans le respect strict des lois et règlements de la République. Aux autorités politiques de veiller à préserver l'espace politique pour l'expression plurielle des opinions, y compris le droit de manifester, de s'opposer et de communiquer, qui sont des libertés et droits fondamentaux reconnus et garantis par la Constitution de la République. L'espace médiatique et le respect de la liberté de la presse sont incontournables dans le débat démocratique et doivent en tant que tels être protégés. Aux forces de l'ordre de respecter le principe de proportionnalité et de ne recourir à l'usage de la force qu'en dernier recours et dans les formes prescrites par la loi. Nous encourageons l'ensemble des forces sociales, la société civile, les syndicats, les organisations féminines et de jeunesse, ainsi que les leaders religieux à s'investir dans la recherche de voies et moyens pour amener le calme et la sérénité. Je vous remercie.
Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est dit préoccupé par la détérioration de la situation en République démocratique du Congo. Préoccupation exprimée dans un communiqué des Nations Unies signé par son porte-parole et diffusé jeudi dernier. Ce document souligne la situation à Kinshasa et dans d'autres villes congolaises à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un projet de loi électorale actuellement soumis à examen additionnel au niveau du Sénat. Ban Ki-moon souligne la nécessité du déroulement des manifestations de manière pacifique. Il demande au gouvernement de conserver l'espace politique nécessaire à l'expression pacifique des opinions. Ban Ki-moon réaffirme par ailleurs la disponibilité de son représentant spécial en RDC à offrir ses bons offices afin d'aider les acteurs principaux à surmonter leurs différends. Enfin, le secrétaire général de l'ONU rappelle que le processus électoral doit être crédible, pacifique et mené en temps opportun en conformité avec la Constitution.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
C'est en 2009 que le programme RAID a été lancé en République démocratique du Congo. Nous revenons ce dimanche sur cet entretien accordé par M. Fabien Montes, alors conseiller technique principal au programme ONU RAID au PNUD. Il s'était entretenu avec Honoré Missenga Kalala.
Fabien Montes, bonjour.
Bonjour.
RAID, c'est quoi ?
RED, c'est REDD, donc c'est réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et la dégradation de la forêt. Donc en fait, c'est un mécanisme financier international qui vise à récompenser les pays en développement qui réduisent leur déforestation et leur dégradation et qui ainsi contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique.
La procédure d'homologation des projets RED implique quoi exactement ?
La procédure d'homologation vise à définir les règles dans lesquelles on va pouvoir transférer à un certain nombre d'acteurs, des organisations, des entreprises, à émettre ce qu'on appelle des crédits carbone. Donc en fait, c'est émettre des crédits qui sont monnayables, contre lesquels un porteur de projet, une organisation, va pouvoir recevoir de l'argent pour les activités qu'il aura menées.
On peut avoir une idée sur quelques règles de cette procédure ?
Par exemple, une des premières choses, c'est que le porteur de projet doit s'enregistrer dans un registre national qui est un registre public. Donc en fait, tout le monde en RDC, mais aussi à l'international, peut savoir qui aujourd'hui en RDC mène des projets RED, des projets carbone. Ça, c'est une première règle. Après, naturellement, il va passer par un contrôle, notamment ce qu'on appelle un contrôle d'honorabilité. On va vérifier que l'argent qui est investi n'est pas de l'argent blanchi, par exemple. Ensuite, il va y avoir un certain nombre de contrôles réalisés par le gouvernement, mais aussi par des secteurs privés, un certain nombre de parties prenantes, comme la société civile. Donc en fait, le porteur de projet va passer par tout un processus, à la fois technique et financier, pour vérifier la pertinence du projet, pour vérifier que ça n'a pas d'impact négatif sur les communautés locales, sur les peuples autochtones, etc. Et donc c'est bien conforme à l'esprit et aux principes de la RED.
En fait, quelles sont les causes des émissions des gaz à effet de serre ?
Il y a de multiples causes. Il y a des causes qui sont déjà naturelles, par exemple qu'on peut retrouver s'il y a des éruptions volcaniques, par exemple. Mais la plupart des causes aujourd'hui sont d'origine humaine. Elles sont liées, par exemple, aux procédés industriels, quand on produit un certain nombre de choses, quand on utilise l'énergie, notamment l'énergie fossile, donc quand on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, etc., on émet des gaz à effet de serre. Donc ça se matérialise dans des secteurs comme les transports, naturellement, les véhicules, mais aussi la construction, l'industrie, etc. Et une des causes aussi qui représente aujourd'hui à peu près entre 15 et 17% des émissions mondiales, c'est la déforestation. Quand on coupe un arbre, quand on brûle un arbre, quand on met à nu un sol qui contient beaucoup de carbone, ce sol petit à petit émet du gaz carbonique et ça contribue à hauteur non négligeable finalement au réchauffement climatique au niveau mondial.
Et les conséquences ?
Les conséquences, elles sont extrêmement importantes, extrêmement préoccupantes. Juste pour vous donner une image, il y a 20 000 ans, on était en période glaciaire, d'accord ? On avait une calotte glaciaire qui recouvrait tout le nord de l'Europe. La France était sous plusieurs kilomètres de glaciers. Et tout ça, c'était avec un écart de température mondiale de 5 degrés par rapport à aujourd'hui. D'accord. Il ne faut pas s'imaginer qu'un petit écart de 1, 2 degrés, etc. n'a pas de conséquences. Ça a des conséquences absolument terribles à l'échelle internationale. Alors maintenant, sur les populations congolaises, par exemple, les conséquences, c'est la variabilité du climat. Donc en fait, on est beaucoup moins certain, par exemple, des périodes de pluie. On peut avoir des pics climatiques, donc des intempéries, que ça soit des vagues de chaleur, que ça soit des inondations. On peut avoir ça de manière beaucoup plus fréquente et de manière beaucoup plus intense, en fait. Bon, ça fait partie des conséquences, mais il y en a beaucoup d'autres.
145 millions d'hectares de forêt, donc deuxième poumon forestier du monde après le Brésil. Est-ce que la République démocratique du Congo est elle aussi menacée par les gaz à effet de serre?
La nature, en fait, du réchauffement climatique est qu'elle est globale. C'est-à-dire que si vous émettez des gaz à effet de serre aux États-Unis ou au Japon, les conséquences, elles sont pour tout le monde, en fait. Donc, elles ne s'arrêtent pas, malheureusement, aux frontières. La RDC a un rôle, je dirais, globalement, qui est positif par rapport au climat. Parce qu'à travers sa forêt, elle séquestre chaque année plus de carbone qu'elle n'en émet. Au regard de la communauté internationale, la RDC contribue à réduire les gaz à effet de serre. L'intérêt de la RED, c'est que, malgré tout, la RDC émet quand même, à travers sa déforestation, un certain nombre de gaz, alors qu'elle compense par ailleurs, mais elle a des marges de manœuvre pour réduire ses émissions et donc pour engranger des financements internationaux pour à la fois réduire ses émissions, réduire cette déforestation, mais aussi contribuer au développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations.
Le programme RED a été lancé en 2009 en République démocratique du Congo. Peut-on connaître quelques projets de ce programme?
On a à peu près 25 millions de dollars qui sont investis dans ces zones pilotes, en fait, de la RDC. Par exemple, dans la province orientale, on a deux projets qui sont pilotés avec la société civile, avec les instituts de recherche et de formation locaux, avec naturellement l'administration locale, et qui mettent en place un certain nombre d'activités, que ça soit par exemple dans le secteur agricole, pour améliorer les pratiques agricoles et essayer de limiter l'impact des agriculteurs sur la forêt, sur les aspects par exemple de facilitation foncière, sur le renforcement de capacités. Et on a de plus en plus de financements qui s'annoncent, qui sont pas encore disponibles, mais qui sont déjà engagés. Par exemple, le programme FIP, on a 60 millions qui vont être engagés dans la RDC sur le terrain pour améliorer les conditions de vie des populations. On est en train de travailler sur la programmation de ça.
Fabien Montes, merci.
Commençons nos nouvelles en bref avec ce communiqué du chef de la MONUSCO publié mardi dernier. Martin Kobler déplore les morts et les blessés suite aux incidents qui se sont produits à la suite de violentes manifestations et l'usage de la force létale par les forces de l'ordre qui s'en est suivi. Monsieur Kobler estime que l'usage de la force doit être proportionné, imposé par la nécessité et un dernier recours. Notons que dans certains quartiers de la capitale, des magasins ont été pillés et des bus brûlés. Je lance également un appel à l'opposition à manifester pacifiquement dans le calme et les limites autorisées par la loi, a conclu le chef de la MONUSCO. À Goma, poursuite de la session de formation de 60 officiers de police judiciaire en violence sexuelle basée sur le genre à l'école de la police de Mungunga. Les apprenants ont subi l'évaluation partielle du mois de janvier. Ils sont actuellement en train de suivre des cours portant sur la rédaction du procès-verbal en matière de violence sexuelle. Organisée par la police de la MONUSCO, cette formation durera 3 mois.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'Organisation internationale pour les migrations vient de publier un rapport sur les opérations d'urgence et de relogement précoce dans le Nord Kivu en 2014. Il s'agit essentiellement d'opérations d'identification des personnes déplacées et d'enregistrement biométrique. Philippe Mouima, chargé de communication à l'OIM Nord Kivu, s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco sur le bilan de ce programme. Suivez.
Philippe Mouima, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
L'Organisation internationale pour la migration, OIM RDC, vient de publier un rapport sur les opérations d'urgence et des relèvements précoces dans le Nord Kivu. Que peut-on retenir en résumé sur le contenu de ces documents?
Effectivement, nous avons publié un document qui est un rapport de situation par rapport aux activités que nous avons réalisées à la fin de l'année 2014. Décembre, l'OIM, nous sommes engagés dans la réponse des humanitaires face à la crise liée au déplacement des personnes ici dans le Nord Kivu. Là, c'est à partir de 2012 et cet engagement se traduit par différentes actions que nous menons pour coordonner l'assistance, mais également que nous menons pour collecter des informations et des données sur les personnes déplacées vivant dans les cités, ces personnes-là dans les zones de retour. Donc ce rapport, il s'agit essentiellement d'un descriptif sur les activités que nous avons faites au courant du mois de décembre, les activités de vérification des personnes déplacées dans les sites de déplacement et d'enregistrement biométrique. D'une part, ces activités-là nous ont permis d'améliorer la compréhension que nous avons de la situation de déplacement, c'est-à-dire savoir combien de personnes il y a exactement dans les sites de déplacement, quelles sont ces personnes-là, quels sont leurs besoins, comment ces besoins ont évolué. Et grâce à l'enregistrement biométrique, nous savons mieux identifier ces personnes déplacées qui vivent dans les sites de déplacement. Il s'agit également de parler de ce que nous faisons dans les groupements et les zones de retour des personnes déplacées, parce que pour nous, il ne s'agit pas seulement d'assister les personnes déplacées dans les sites de déplacement, mais il faut également pouvoir les accompagner dans les zones de retour et donc pour aider ces personnes à se réintégrer de manière digne et de manière durable dans les zones de retour.
Justement, l'une des activités, c'est la finalisation des opérations d'identification des personnes déplacées internes, couplée bien entendu avec l'enregistrement biométrique. Alors, quel est le bilan en termes chiffrés de cette double opération en 2014 et quels sont les avantages ?
Il faut savoir qu'ici, dans le Nord Kivu, nous coordonnons avec le HCR 59 sites de déplacement. Et cette coordination se fait avec différents autres acteurs humanitaires et également les représentants du gouvernement congolais. L'OIM est responsable avec le HCR de la collecte, et de la gestion et du partage des informations sur les effectifs des personnes déplacées, sur leurs besoins et sur différents autres critères qui permettent de comprendre leur profil.
Et donc, combien de déplacés vous avez assisté jusque-là, en termes chiffrés ?
En termes chiffrés, je vais parler de la ville de Goma où nous avons fait la vérification couplée avec l'enregistrement biométrique. Nous pensions au départ que nous étions en présence de 104 000 à peu près personnes déplacées. Et donc après ces opérations-là, nous avons trouvé des résultats qui ont fait état d'une baisse de 85% de cet effectif. C'est important pour nous de réaliser ces opérations de vérification parce que ça nous permet de mieux calibrer l'assistance, ça nous permet d'avoir des informations qui sont réellement en adéquation avec la situation du terrain parce que les situations sur le terrain évoluent. Il faut que nous ayons régulièrement des données qui sont à jour, des données qui sont vérifiées et qui permettent à la communauté humanitaire et à tous les autres acteurs de prendre des actions qui répondent vraiment aux besoins des personnes déplacées en considérant des effectifs qui sont réels, en considérant les personnes réelles. Parce que cet enregistrement biométrique permet d'éliminer les doublons, d'éliminer les éventuelles fraudes et de garantir que l'assistance atteint effectivement la personne qu'il fallait.
Mais l'OIM s'est engagé également à accompagner la décision du gouvernement provincial de fermer les sites de déplacement dans la zone des Goma et ses alentours. D'abord, pourquoi cette décision alors que la paix n'est pas rétablie dans tous les territoires du Nord Kivu ?
Je ne suis pas la personne indiquée pour expliquer les raisons qui ont poussé le gouvernement à prendre cette décision. Néanmoins, comme je vous ai dit, nous sommes engagés à accompagner le gouvernement parce que nous, OIM déjà, nous coordonnons 5 sites parmi les 6 sites qui vont fermer autour de Goma. Alors, pour nous, il est important que cette décision soit appliquée de manière à respecter et à garantir les droits et surtout la dignité des personnes déplacées. Les personnes déplacées, si elles doivent quitter les sites de déplacement, elles doivent quitter ces sites de déplacement dans la dignité, mais également nous devons veiller à ce que l'application de cette décision offre aux personnes déplacées un choix libre, le choix de quitter les sites pour être relocalisées dans des sites de leur choix à l'intérieur de la province, le choix de quitter les sites pour rentrer, c'est le cas pour certains, leurs zones d'origine sont déjà pacifiées. Pour ceux dont les zones d'origine ne sont pas encore pacifiées, il faut que nous nous rassurions que ces personnes ont le choix libre de rentrer dans des zones de leur choix, mais également de pouvoir s'intégrer localement ici dans la ville de Goma. Mais il y a également autre chose, c'est que nous, nous veillons à ce que les données, les informations, les effectifs, les statistiques en rapport avec ces personnes qui vont quitter les sites pour bouger, soit dans des milieux de retour qui sont leur milieu d'origine ou d'autres qui ne sont pas forcément leur milieu d'origine ou se faire réinstaller dans des sites de déplacement de leur choix. Nous devons veiller à ce que les informations sur ces personnes-là soient disponibles pour savoir qui est parti, il est parti où et permettre de cette façon que les différents acteurs qui seront impliqués dans la prise en charge de ces flux puissent avoir des données qui leur permettent d'agir de manière conséquente et de gérer de manière efficace ces mouvements prochains.
Vous parlez des déplacés et des retournés. L'OIM, avec bien sûr le HCR, apporte une réponse aux besoins humanitaires, notamment dans la mise en œuvre de projets communautaires. Comment on s'y prend alors l'OIM pour se faire ? Quelles sont les zones concernées et les nombres de bénéficiaires ? Est-ce qu'on peut avoir une idée ?
Effectivement, l'OIM a un projet de sécurité humaine qui est axé sur le renforcement de la résilience des communautés dans les zones de retour. C'est un projet que l'OIM implémente actuellement seul. Il s'agit des territoires de Rutshuru et des territoires de Nyiragongo. Nous faisons en sorte que nos projets en s'appuyant sur les administrations locales, sur les ONG locales et ce que nous appelons les comités locaux de paix et de développement, nous puissions atteindre les personnes retournées, mais également les communautés qui les accueillent. Concrètement, d'abord, nous faisons des actions au profit de ces personnes, tant en facilitant leur intégration, en leur offrant des intrants agricoles pour faciliter la prise de l'agriculture, en les appuyant avec des outils et des éléments qui leur permettent de reconstruire un foyer, mais nous faisons également le renforcement des capacités des infrastructures communautaires qu'il y a. Par exemple, nous savons que dans les milieux de retour, parfois, les postes de police ne sont plus fonctionnels, nous n'avons pas des bureaux pour l'administration locale. Et donc, à travers ce projet de sécurité humaine, nous appuyons également au renforcement ou bien au rétablissement de l'autorité de l'État.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent, notamment à Rutshuru et à Nyiragongo aussi?
Les difficultés que nous rencontrons souvent, ce sont des difficultés relatives à l'intégration de cette approche communautaire dans l'ensemble des projets et des actions que nous menons. Donc, ce n'est pas toujours évident de faire les choses dans les délais que nous prévoyons, étant donné qu'il faut constamment intégrer cette approche communautaire. Mais il y a également une autre difficulté en rapport avec l'accessibilité de certaines zones. L'état de route, ce n'est pas toujours simple, mais nous avons également un volet dans notre projet qui consiste en la réhabilitation des routes pour pouvoir implémenter ces projets, mais également pour faciliter l'acheminement des produits d'agriculture que nous appuyons dans ces zones de retour.
Est-ce que vous avez un message en début de cette année aux nombreux déplacés internes qui continuent à errer et ont besoin de votre assistance?
Le message que nous pourrions donner aux personnes déplacées ici dans le Nord Kivu est un message d'espoir. C'est vrai que ces personnes-là sont passées par de nombreuses peines, de nombreuses difficultés, et malheureusement certaines d'entre elles ont fait même plus de 10 ans sans revoir leur village. Nous sommes conscients de cela et nous sommes conscients du fait que parfois cela conduit simplement à arrêter d'espérer et arrêter de penser que le retour à la paix est possible. Nous, nous les encourageons à garder l'espoir.
Philippe, je vous dis grand merci et bonne année au Nord Kivu.
Dans la nouvelle des provinces, au sud Kivu, une organisation de défense des droits de l'homme de Bukavu dénonce un certain nombre d'irrégularités observées ces derniers temps à la prison centrale de Bukavu. Irrégularités dues, selon Vision Sociale, à une mauvaise gouvernance suite à la mésentente entre dirigeants de la prison et un laisser-aller qui pourrait constituer une porte d'entrée à une nouvelle évasion. Parmi les tares observées au cours du monitoring mené à la prison, il y a la présence d'armes à feu, la pratique du sexe et la vente de bière aux prisonniers. Écoutons Maître Papi Kajabika, il est administrateur de l'organisation Vision Sociale, au micro de Michel Chirimwami.
Le monitoring que nous avons fait au niveau de la prison centrale de Bukavu, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup d'armes blanches qui circulent à l'intérieur de la cour centrale. Nous avons même été informés de la présence du camion Bralima qui arrive là-bas. Il y a des caisses qui sortent de la cour centrale pour acheter la bière sur la route. Et ces mêmes bouteilles entrent dans la prison centrale de Bukavu, sous la barbe des responsables de cette institution pénitentiaire. On nous a même révélé qu'il y a des armes à feu qui circulent au niveau de la prison centrale de Bukavu. Un des détenus nous a même dit qu'il y a un revolver qui serait en train de circuler là-bas et sur lequel on n'a pas encore mis la main. C'est déjà un danger. Le week-end dernier, une grenade a été remise à l'autorité en charge de la gestion de la prison. Il y a eu même un cas de viol en date du 23 novembre de l'année passée. Une femme a été violée à l'intérieur de la prison et la femme qui était enceinte a même avorté.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Des miliciens pygmées sont en train de se faire remarquer ces derniers temps dans la province de Katanga, mettant à mal la paix. Ce que nous connaissons des pygmées depuis les guerres de Chaba au Zaïre en 1977 et 78 est qu'ils disposent des armes rudimentaires, des flèches, des lances et autres. J'aimerais savoir, est-ce avec ces armes rudimentaires-là qu'ils tiennent tête aux forces loyalistes?
Question posée mercredi à la télé, conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies par le journaliste Roger Marley Lukunga du journal Le Paris. La réponse est donnée par le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Félix Basse, à partir de Goma.
Vous avez parfaitement raison de dire que, de manière très globale, les pygmées utilisent des armes rudimentaires. Tantôt, quand je présentais la situation sécuritaire, justement, au nord de la province de Katanga, entre le territoire de Manono et Nyunzu, J'ai bien dit que des attaques avaient été lancées par une milice pygmée contre les populations Louba de la région. Il ne s'agit pas d'une confrontation entre les pygmées et la force de la MONUSCO ou d'une confrontation entre les pygmées et les FRDC. Vous savez bien que cette tension règne depuis très longtemps entre les différentes entités ethniques qui vivent dans cette province-là et que aussi bien la MONUSCO que les autorités locales, les leaders religieux, tout le monde s'est investi pour ramener la paix dans cette région-là, pour une cohabitation pacifique entre les différentes entités ethniques qui vivent dans cette région du Katanga. Évidemment, la force de la MONUSCO, comme vous le savez, est déployée dans la province du Katanga qui est assez grande. Mais, compte tenu de la faiblesse de nos effectifs, nous essayons, avec les FRDC, de conjuguer nos efforts pour ramener la paix, d'abord contre les groupes armés, parce que, comme je vous le dis, ceci est à la base d'un conflit ethnique, mais les groupes armés qui pullulent là, les FDLR, un peu plus au nord, là, sur les montagnes de Mitumba, mais aussi les Katakatanga et les Maïmaï généraux. Tous les bons offices qui ont été menés jusqu'à présent, aussi bien par la MONUSCO que les autorités locales, évidemment, trouveront une issue heureuse pour une meilleure cohabitation entre les différentes entités ethniques qui vivent dans cette région.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, on m'appelle Yim Singo Yindula. Je suis marié depuis 2006, père de deux filles. J'ai eu à avoir mon diplôme d'état en aviation civile. Et ensuite, j'ai enchaîné pour un graduat en technique de maintenance. Et finalement, j'ai eu ma licence en administration des bases de données. Actuellement, je suis l'adjoint du chargé de technologie de l'information publique. Bon, en gros, quand j'arrive, la première chose, mon outil préféré de travail, c'est l'email. Et c'est à partir de là que j'ai à peu près un aperçu de l'état général du réseau. Je peux voir tout ce qu'il y a comme notification la nuit et pouvoir aussi pouvoir suivre les tâches déposées, je dirais, auprès des CSIS, des services de MONUSCO, chargés des tâches plus avancées sur la technologie d'information et suivre aussi les tâches en cours au niveau du service d'informatique directement. Avant d'être à la MONUSCO, j'ai pratiquement une expérience de professionnel de 17 ans, dont 16 ans passés en informatique. Parce que mon premier emploi, j'ai été électronicien. Après, j'ai eu à donner des cours d'informatique au centre informatique Saint-Augustin pendant une année. Et ensuite, je suis allé à Comptoir de Paris. Toujours comme informaticien et puis j'étais l'adjoint du gérant. Ensuite, je suis passé à l'école Saint-Cyprien, toujours pour donner un cours d'informatique. Et finalement, j'ai été recruté en 2005 à Radio Okapi en tant qu'assistant IT. Et là, depuis 2009, je suis l'adjoint du chargé des technologies de l'information publique. Bon, pendant mes temps libres, j'ai comme hobby l'électronique. Bon, on peut toujours trouver du temps lorsqu'on veut. Hein. Mon hobby, c'est l'informatique. À l'époque, il y avait les baskets comme sport que j'aimais, mais bon, c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas tellement de temps pour les faire. C'est moi, je me limite carrément à la corde à sauter. Bon, pour la musique, j'aime bien les slow, les rap et puis les reggae. Trop difficile pour moi, ça. Bon, pour les repas, j'aime bien les fumbois.
Pourquoi?
J'aime bien les fumbois accompagnés de poissons salés. Ça, j'adore. Pour les perspectives d'avenir, j'ai plein de projets qui sont encore en train d'être formatés, donc je ne vais pas en parler pour l'instant, oui. J'ai des projets là qui ne sont pas encore bien finalisés. En fait, ils sont couchés sur papier, mais ce serait assez difficile de les mettre en activité maintenant avec la charge de travail que j'ai. Donc, je les garde pour un moment opportun. Merci aux auditeurs de Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Et pour la semaine qui commence, trois dates à retenir dans le calendrier des Nations Unies. D'abord le 26 janvier, ce lundi, c'est la journée mondiale de la douane et de l'éthique. Le 27 janvier, la journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Enfin, le 29 janvier, ce sera la journée mondiale des lépreux. Oui, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Votre magazine a été supervisé par Julien Niamouni et coordonné par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Missenga Kalala était au reportage, Lydie Bettina à la présentation et Alain Goy à la mise en onde. Vous pouvez réécouter votre émission sur le site internet le www.radioocapi.net. Merci et bon dimanche chez vous.